future is now. It's really gonna be a better world. So many people try again and again and again to change. If I got happy from the beginning.
Quand on parle du mouvement pour la paix et puis des femmes dans le mouvement pour la paix, la plupart des gens font un rapport entre le mouvement pour la paix et l'Union soviétique et de ce qu'ils profitent à l'Union soviétique. Et c'est un peu là-dessus que j'aimerais les interroger sur leur position à elles par rapport à la politique internationale, même si elles ont un autre discours, même si elles ont un autre type d'action, etc. Je pense qu'on ne peut pas éviter de répondre à ça, puisque on ne peut pas faire fi du reste du monde. Et puis ça, c'est une question dont on ne peut pas faire l'économie. Voilà. Alors c'est de ça que j'aimerais qu'elle parle.
It's a very difficult question, very important question. I mean, something that has come up this week, which we were talking about before we did the action at the Soviet Union, is perhaps, you know, very relevant. When we heard that the talks were going to be at the Soviet embassy and not the not the American embassy, there were about five of us in the house at the women's center. There was Lisa, me, some other women, and we all felt very, very, very strongly that we didn't want it to be in the Russian embassy. We would have really preferred the talks to have been at the American embassy because, for example, I mean, I can only speak personally. I felt very strongly that the media would use the fact that we were going to the Russian embassy in terms of, you know, the international situation and everything as a way of fueling Cold War propaganda. Do you understand that, if you see what I mean? That there is so much anti-Soviet propaganda around at the moment that I felt that going to the Russian embassy would be seen as an attack on the Russians, rather than because they were talking there. And I feel very strongly that the Soviet Union is always under attack, that the main aggressor in the arms race is the Americans. And by that, I'm not excusing anything that the Soviet Union does. But I do feel that there's such an imbalance in propaganda, if you like, that the Americans have so much the upper hand, that it's very important to see our position in relation to that. And our actions in relation to that and how they could be misinterpreted or interpreted by the media.
Elle a dit que justement elle pense que c'est une question très importante parce qu'elles ont dû avoir ce débat par exemple avant de faire leur action. Donc leur but c'était de pénétrer dans le lieu où se trouvaient où avait lieu la conférence, mais elle ne savait pas à l'avance si ça serait à la mission américaine ou à la mission soviétique. Et le jour où elles ont appris, enfin le moment où elles ont appris que ce serait la mission soviétique, ça leur a pas plu du tout, disons, l'idée qu'elles devraient entrer dans la mission soviétique parce qu'elles avaient peur que cela soit interprété comme une action anti-soviétique. Elles pensent qu'il y a en ce moment une immense propagande anti-soviétique et qu'elles ne voudraient pas entrer dans ce jeu-là, disons. Et pour elles, l'agresseur principal, donc sur tous les fronts armés, c'est quand même les États-Unis. Et ceci ne veut pas du tout excuser ce que fait l'Union soviétique. C'est pas du tout pour minimiser ou excuser ce que fait l'Union soviétique. Mais elle pense que les États-Unis interviennent de manière plus importante. Et en plus, ont ce niveau et c'est surtout au niveau de la propagande que les États-Unis ont des moyens de propagande. Effectivement, peut-être que n'ont pas l'Union soviétique. Ça, je sais pas.
And by taking the action there, I mean, if the press emphasized it being in the Soviet embassy, it was ignoring, for example, the fact that in the negotiations, most of the proposals have come from the Soviet Union, that it's the United States that have rejected most of the things that the Soviet Union have, suggested they could do. Like 2 or 3 weeks ago, they said that they would consider dismantling most of their SS-20s. And it's just all this sort of thing that I felt very strongly, I felt very unhappy even when we did it, that it was at the Soviet mission because of all this sort of thing, and that I don't want to be part of. So much, the arms race is built on this propaganda and the Cold War propaganda, and a large part of which is anti-Soviet propaganda, and I did not want to be part of something that was going to increase that, because that's something we have, because I don't feel that the Russian people are my enemy or anything like that. I mean, it's the mentality and it's the state, the Russian state, if you like, and that I didn't want to be part of anything that was going to increase the Cold War propaganda, because it's so, it's part of the arms race.
Elle a dit que oui, qu'elle avait peur que ce soit repris par la presse justement alors que juste que ces négociations avaient été ouvertes par les propositions des États-Unis de démanteler les SS-20 et que ce sont les Américains qui ont refusé d'entrer en matière là-dessus. Donc elle n'a pas du tout envie, enfin elle personnellement n'a pas du tout envie d'entrer dans le jeu de la propagande anti-soviétique qui a toujours été qui a toujours fait partie de la guerre froide. Enfin, je résume là, disons, ce que tu viens de dire, mais est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Je sais pas, il me semble pas, non.
Ouais, ça c'est un peu résumé, quoi.
Mais cependant, tu as dit que tu ne voulais pas être l'ennemi des Soviétiques, mais apparemment, tu as moins de réticence à être l'ennemi des Américains. Et puis, l'objection que font beaucoup de gens au Mouvement pour la paix, c'est précisément de prendre parti pour un des deux camps. Alors qu'en fait, la dangereuse situation mondiale dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est elle est créée par l'affrontement des deux super grands. Et dire déjà, je trouve qu'il y en a un qui est moins pire que l'autre, c'est déjà rentrer dans cette logique de la terreur dans laquelle on vit et qui est provoquée par les deux super grands. C'est déjà rentrer dans cette logique qu'on dénonce. Voilà l'objection que font la plupart des gens.
Yeah. I think we try to work on different levels. On the one hand, we try to break up this threat system all the time, saying I'm not threatened by Russian people and I'm not threatened by American people, and try to build up a lot of communication, because there is, for example, a very big peace movement in America and Canada which we never hear about here, with a lot of people doing actions, they're going to prison because they are just so really strongly objecting against these weapons, and we never hear about it. It's just, that's part of the propaganda game. And then on the other hand, I mean, if you're living outside an American base, it's so clearly by whom you're occupied. So you have to draw that line. Like, the Polish people are coming up against the Red Army, but we are coming up against the Americans because they are sitting in our countries. It's in Germany, it's in England, in Sicily. We're just covered with American bases all over, and they are taking over power, and they're behaving like...
Colonialists, imperialists.
Yeah. So from that point of view, you have to take a stand.
Lisa a dit qu'elle, elle essaie de, justement de bien distinguer, disons, le fait que le peuple américain, pas plus que le peuple russe, n'est leur ennemi. Elle souligne le fait qu'il y a un grand mouvement... anti-guerre aux États-Unis et au Canada, dont on n'entend absolument pas parler ici, que ça fait partie de la propagande. C'est le fait que ce genre de mouvement est complètement ignoré, qu'on n'en parle jamais hors des États-Unis. Elle souligne aussi le fait que quand on est à côté d'une base américaine, on est bien obligé de se situer par rapport à l'ennemi qui nous occupe là où on est, que les Polonais se soulèvent contre l'armée rouge et que les gens qui sont à côté de bases américaines, comme en Allemagne, en Angleterre et tout ça, se révoltent contre les États-Unis parce que les États-Unis ont un comportement d'occupant complètement impérialiste donc par rapport au pays dans lequel elles se trouvent. Et je voudrais ajouter une des raisons pour lesquelles en Suisse il n'y a pas un mouvement très important, par exemple ici à Genève, c'est qu'on n'a pas de présence physique des États-Unis. Par exemple, pour nous, c'est assez abstrait. C'est clair qu'on réagirait très très différemment s'il y avait des bases américaines sur le sol suisse, quoi.
I mean, it's such a hard question because, you know, we do try and break down this whole barrier thing. Like, I mean, from Greenham, there are many trips all over the world, and one of the ones that was going to go at the beginning of September was to Russia, because we did, you know, women do feel... I mean, that wasn't a Greenham trip as such, but it was from the peace movement in England, and Women for Life on Earth it was. And that was to try and reach the Russian people. So, I mean, it isn't that, you know, we do feel that we're not threatened by the Russian people or the American people, and that it is the two sort of states, that or the military people, and we do try and break that down. But at the same time, you can't be unaware, you can't see yourself, or I do not see myself, or the peace movement, in isolation, away from the whole international context of Cold War propaganda and of what the United States is. And I mean, I'm not a supporter of the Soviet Union, and I hate what they do there. And I do understand the objection about taking sides, but it's very, very hard to sort of... Oh, you better say what you want to say, because there was a...
Yeah. June, elle a juste dit que, justement, elles font beaucoup d'efforts pour essayer d'établir la communication avec soit le peuple américain, soit le peuple russe, et qu'il y a des voyages, disons des expéditions qui partent, soit de Greenham, soit du Mouvement pour la Paix en général, qui ont justement pour but d'établir cette communication, et qu'il y a eu justement un voyage qui a été organisé vers l'Union soviétique par un mouvement des femmes pour la... Women for Earth,
Life on Earth.
Les femmes pour la paix sur la Terre, qui ont organisé donc un voyage en... Les femmes pour la vie sur la Terre, qui ont organisé un voyage en Union soviétique justement pour essayer d'entrer en contact avec, disons, les gens, le peuple russe. Et après, elle a dit encore autre chose. Qu'a-t-elle dit?
Well, there was just a point that I was trying to remember. Can I just say it very quickly? That when this march was planned, this trip to Russia, we had a big meeting near Greenham, to discuss the whole politics of going to Russia and what it meant and everything. And there were some women there who really put the problem sort of for me in a nutshell. And the problem was posed sort of on the one hand that it's very important to go to places like Russia and talk to the people and get through the barrier of everything. But on the other hand, to try and not to do it in a way that would add to Cold War propaganda. Do you see what I mean? That by talking all the time about how bad the Soviet Union is, and that it's just very, very hard. But on the one hand, you get people who say the Soviet Union is worse than America, and I mean, I suppose we're saying America's worse than the Soviet Union, and it's just in trying to sort of go to talk to people and go to different countries, you can't see yourself in. Outside of how the press will report it and outside of the whole international situation anyway. It's just so difficult.
Elle a dit que c'est très difficile comme problème et que justement au moment où elles ont eu des réunions pour discuter de ce voyage en Union soviétique, il y avait là une femme qui revenait de Hongrie et qui racontait toutes les difficultés auxquelles se heurte le mouvement pour la paix dans les pays de l'Est. Donc ils se sont rendus compte que c'était très très difficile comme problème justement, c'est-à-dire si on dit à la presse qu'on va aller en Russie ou dans les pays de l'Est pour essayer de rencontrer les gens, ça peut être utilisé donc par la presse d'une manière qui va amener de l'eau au moulin de la guerre froide et que c'est toujours très très difficile de se situer là-dedans, mais que c'est vrai qu'on ne peut pas agir, disons, en ignorant tout ce contexte international. Parce qu'il y a toujours des gens qui viendront vous dire que les Russes sont pires que les Américains. Elles penseront plutôt que les Américains sont pires que les Russes, mais bon, à la limite...
I think what we're up against all the time is that here is that in Britain and in the West in general, the press is so biased against the Eastern Bloc countries that whenever I speak to anybody, like when I'm hitching or just people that I meet in the towns where I am, there's always this, oh, it's all very well what you're doing, but what about the Russians? The immediate response from most people is the fear that they feel from Russia. And this fear, when you talk to them very deeply about it, it's just the fear of the future, really, and that is that they label that Russia. It's the Russian threat. And that comes from propaganda, from the media. It doesn't come from Russia in reality. Mm-hmm. It's and it's that we have to be working against. And perhaps we go a bit over. We go too far, perhaps sometimes in blaming America and not talking enough about the mentality, the military mentality. But that's what we're about.
That's really.
Elle dit que quand elle rencontre des gens dans la rue, quand elle fait du stop, qu'elle raconte ce qu'elle fait, tout de suite on lui pose la question de la Russie, de l'Union soviétique et tout ça, et que en fait en parlant plus profondément avec les gens, elle se rend compte que la peur de la Russie, c'est la peur du futur, que les gens appellent peur de la Russie, et ça c'est uniquement dû à la propagande. Donc anti-soviétique, et c'est pas du tout quelque chose qui vient effectivement de l'Union soviétique, ça vient vraiment de cette propagande. Alors elles disent qu'elles ont tendance à réagir toujours donc en accablant encore plus les États-Unis pour ne pas tomber dans ce jeu-là, mais que c'est peut-être une erreur et qu'il faudrait aussi arriver à être plus nuancé, à aussi dire ce qu'on pense de l'esprit militaire de l'Union soviétique et de toutes les choses qu'on déteste aussi qui viennent de l'Union soviétique. C'est vrai qu'on ne veut pas non plus apparaître comme des gens qui défendent l'Union soviétique, mais c'est compliqué, quoi.
This is again Radio Yerevan with our news.
Oh, I'm sorry. I have to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. My brother.
Bon, alors pour que ce soit clair, Gabriela, qui est là-bas dans cette pièce, a parlé, a donné cette déclaration, a lu cette déclaration aux délégués russes et aux délégués américains. Des pourparlers. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que ça m'a fait beaucoup de choses quand j'étais sur le mur et que j'ai vu ces 5 femmes entourées de 40 hommes, parce qu'il y avait tous les agents de la sécurité, et ces 2 hommes très rigides, très sérieux dans leurs costumes. Ça m'a fait vraiment quelque chose de voir 5 femmes qui étaient là et qui parlaient aux hommes qui ont toute la responsabilité de la planète dans les mains. Je trouve que ça m'a donné de la force pour... les prochains 10 ans à venir. Bon, alors la déclaration à la conférence. Tu veux la lire, toi, puisque c'est toi qui l'as lue. Bon, ok. Bon, alors je la lis. Ça va, c'est assez fort comme ça. Nous, femmes, croyons que la seule chance de survie sur notre planète est un désarmement véritable et total. Par cela, nous voulons dire qu'il faut arrêter l'industrie nucléaire complètement, de l'extraction d'uranium à la production d'armes. Nous sommes des femmes ordinaires du monde entier et nous sommes venues pour faire entendre nos voix parce que les hommes qui disent nous représenter, nous les gens ordinaires, sont derrière des portes fermées avec des cœurs et des esprits fermés. Aucun des pourparlers sur le désarmement jusqu'à maintenant ont réduit la production des armes nucléaires. Ils ont eu l'effet contraire et l'ont augmenté. Nous ne faisons pas confiance aux hommes qui négocient pour nous. S'ils échouent, Cruz et Pershing seront installés en Europe. S'ils réussissent, même par leur logique, il n'y aura aucun désarmement, seulement une stabilisation de la production. Toutes les parties en jeu sont prises au jeu de l'escalade de la course aux armements, parce que les économies des superpuissances sont dépendantes de la production et de la vente des armes. Ce sont des économies de guerre. La menace de la guerre atomique est suspendue au-dessus de nos têtes chaque minute de notre vie. Alors que les hommes des négociations continuent de parler, des milliers de gens continuent de mourir de faim. Chaque centime dépensé, chaque ressource utilisée, chaque énergie placée dans les armements réduit la qualité de la vie pour tous sur cette planète. Nos vies ne sont pas menacées par les femmes américaines ou les femmes soviétiques. Nous ne sommes pas menacées par les peuples de la Terre, mais par les forces qui les gouvernent. Ces forces ne semblent pas capables de comprendre les sentiments et les peurs des gens ordinaires qui, soi-disant, ils représentent. Quand ont-ils pleuré pour la dernière fois ? Ça veut dire les hommes de la négociation. Laissons-les penser aux armes nucléaires et à la guerre atomique en termes concrets et personnels. Laissons-les penser à ce qu'ils aiment et ce qui leur arriverait dans un holocauste nucléaire. Ils savent que cela peut arriver à tout moment, ou bien que ce soit par accident ou que ce soit voulu. Laissons-les avoir peur et être tristes. Laissons-les pleurer. La technologie leur échappe. Il faut qu'ils cessent de prétendre qu'ils peuvent prendre la responsabilité pour des millions d'êtres humains et pour la vie sur Terre en comptant les arsenaux des uns et des autres. Nous sommes un seul et même monde, une petite planète bleue couverte de gens de toutes couleurs et de toutes cultures. Les États-nations ont été construits par des hommes. Les concepts d'ennemis, de menaces et de domination du monde ont été élaborés par des hommes. Ces concepts peuvent être contestés et changés. Nous pouvons créer un monde harmonieux où coopération, sensibilité et compassion sont des valeurs qui remplacent la compétition et l'agression. Nous voulons commencer dès maintenant à faire confiance à chacune et à chacun d'entre nous. Désarmez-vous, désarmez les uns les autres, désarmez le monde. Sans désarmement, c'est la destruction de notre planète. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Sentez, pensez et faites face au danger pour nous tous. Faites face à ce que vous faites quand vous vous asseyez à la table des négociations. Si vous avez conservé votre instinct de vie et de survie, le résultat de votre accord sera un désarmement total et complet et commencera aujourd'hui, maintenant. On a rajouté, si on vous souhaite quelque chose, on vous souhaite les cadeaux suivants. Du temps, de l'écoute, de l'humour, de la vie, de l'amour, de l'intelligence, un clair de lune, de la passion, la poussée des graines, de la patience, de la compréhension, de l'eau et du sel de l'océan Pacifique, des rêves pour la nuit, de l'intégrité, du courage, de la confiance, de la paix, la vue et la vue intérieure, la compassion, la capacité de voir la beauté, la capacité de pleurer, la capacité de pouvoir voir et être ému par les couchers de soleil, elle a oublié naturel, la sagesse du vieux chef Sito, un monde qui est sage, sage-femme et merveilleux.
Non, je suis toujours tellement émue que quand je l'écoute. Je l'ai lu quelques fois et je suis toujours émue. C'est tout.
Oh,
beaucoup de temps à Greenham, en Angleterre. Et pourquoi penses-tu que ces camps pour la paix sont importants?
C'est pas important de passer beaucoup de temps dans les camps. Et c'est ça ce qui est le plus intéressant et le plus fantastique de ces camps, c'est que ça commence avec un principe de responsabilité qui est qu'il n'y a pas dans le monde politique à tous les niveaux, cette notion est absolument, il est vraiment pas là dans à tous les niveaux politiques. Et ça, c'est une réalisation que personne d'autre va faire ce qu'on veut si on le fait pas nous-mêmes. Si on veut qu'on n'a pas de guerre, si on veut qu'on n'a pas d'armes et de missiles et de nucléaires, on peut pas avoir confiance en les hommes qui sont en haut dans les hiérarchies. C'est ça. On peut pas avoir confiance qu'ils vont faire ce qu'on veut et ils vont agir dans une manière qui va garder la terre. Alors c'est très très important de faire ces camps de paix, parce que c'est pas des femmes qui disent qu'ils sont naïves, qui sont simples, qui sont un peu gaga, qui vont faire seulement un peu de jardinage, un peu être à l'air comme ça. C'est pas qu'on sait pas d'essayer d'arrêter les armes, c'est difficile. C'est pas qu'on croit que c'est facile, pas du tout. Mais on peut ou dire, oh, on fera jamais rien, alors on fait jamais rien, et on reste à la maison, on fait rien, puis on se laisse absolument être décimé. Ou bien on dit, bon, il n'y a pas beaucoup que je peux faire, mais je peux faire quelque chose. Et avec tous les outils que j'ai, je vais essayer de faire quelque chose. Et dans ces camps, pour la première fois, on a le droit de faire, de penser pour nous-mêmes. Et c'est absolument important que c'est des femmes qui font ça, parce que les femmes surtout, on leur a toujours dit de quoi faire. Il faut faire ça, il faut se maquiller, il faut avoir un homme, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, même la notion de pouvoir penser clairement dans l'espace femme, c'est quelque chose qui est déjà très, très radical, révolutionnaire. C'est quelque chose qui, vraiment, ça change les personnes. Et quand je donne un exemple, quand on arrive à Greenham, les femmes souvent disent, bon, où est-ce qu'il y a une tente d'information, ou où est-ce que je peux placer ma tente, et ou qui est le chef ici? On dit, il n'y a pas de chef, place la tente où tu veux, fais ce que tu veux, va dans la base si tu veux, c'est à toi de penser à tous les autres, toutes les choses. Et à ce moment, les femmes font comme ça, oh, parce qu'ils doivent vraiment penser pour la première fois où de placer une tente. C'est pas un flic qui va les dire d'aller là ou de pas aller là. Si ils mettent leur tente quelque part où c'est stupide, ils vont le voir, parce qu'ils vont, une voiture va aller dans leur tente ou quelque chose comme ça, ils vont le voir, et c'est à eux de prendre cette responsabilité. Alors quand on commence à changer les gens comme ça de petit à petit, c'est pas une question de tente, c'est une question de pourquoi est-ce que je pourrais pas aller dans la base, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire quelque chose. Et je veux dire que en commencement, ça a l'air très très simple, très stupide. Les femmes qui ont arrivé au Greenham en premier, elles ont eu l'air très stupides. 12 ou 15 ou peut-être plus femmes, mettre les tentes dehors une base nucléaire, mais c'est vraiment fou. Mais dans un an, ils ont eu 30 000 femmes, c'est vrai, 30 000, ouais. 30 000 femmes faire le tour du base en un an, d'être les personnes que tout le monde disait, ha 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 ha, mettre les tentes, sort ça, mais c'est bête, mais c'est, on leur a vraiment ri dans leur figure. Et un an après, il y avait 30 000 femmes Toutes les paroles en anglais, c'était dans tous les journaux, dans tout le monde. Maintenant, tout le monde sait du Greenham. Et ça, c'est le pouvoir de dire, oui, on va faire quelque chose et on peut faire quelque chose. C'est pour ça que c'est important pour moi.
Tout à l'heure, tu as dit c'est aux femmes qui viennent de décider si elles veulent aller dans la base. Alors, bon, moi, ça veut dire que vous, les femmes de Greenham, vous pénétrez dans cette base, que vous l'avez déjà fait. Est-ce que tu peux raconter peut-être une des actions où les femmes sont entrées dans la base?
Bien, il y avait toute une histoire à Pâques, cette année passée. Et c'était la dernière jour d'un blocage de, je sais pas, 4 jours, je crois qu'on a fait. Et nous étions 190 femmes qui sont entrées dans la base. Pas toutes ensemble, mais dans des petits groupes de toutes les régions de la base. Ils ont coupé le gris, ou ils sont allés dessous, ou allés pas dessus. Et dans notre petit groupe, on est allé là-dedans. On a dansé un peu ensemble. On a fait. On est arrivé jusqu'au runways, comme dit-on.
Le chemin de piste.
Ouais, pour les avions. Et là, on a fait une signe de féministe pour la paix. Avec tous nos corps, on s'est allongé par terre dans la forme de cette signe. Et on était comme ça, on a fait ça quand l'armée est venue. Et nous a prise et mis dans un petit wagon. Et nous a amené jusqu'à un hangar. Et là on s'apercevait qu'il y avait d'autres wagons avec d'autres femmes là-dedans, et c'était incroyable de voir des autres femmes dans la même situation. On ne savait pas, quand on est rentré, combien d'autres groupes. On savait seulement qu'il y avait un groupe de femmes qui est normalement à la camp, qui faisait un pique-nique pour des teddy bears.
Poutinounours.
Ils étaient tous entrés dans les costumes, des vêtements d'animaux. Et c'était bien reporté dans les journaux. Mais on savait qu'il y avait cette coupe, mais pas d'autres. Alors là, c'était vraiment bien de voir des autres femmes. Et on a chanté fort des fenêtres, des wagons, pour sentir ensemble avec les autres. Et on attendait là un peu. Et il y avait de plus en plus de wagons qui est venu. On se demandait combien de femmes arrivaient de entrer dans la base. Et après un peu, on s'apercevait qu'il y avait quelques femmes qui étaient prises de certains wagons et amenées dans le hangar. Et on s'est demandé ce qui est arrivé, parce que on avait l'impression que nous serons peut-être tous mis à la porte, parce que c'était trop difficile pour la police d'avoir tant de femmes arrêtées. Alors, bien que nous avons été chargés, nous avions l'impression qu'ils avaient tout laissé tomber parce qu'il y avait tant de femmes. Mais on ne voulait pas qu'il y avait un petit nombre de femmes qui sont victimisées. Alors, quand il nous a mis dans des plus grands wagons, trois plus grands camions pour les troupes, pour l'armée, dans notre wagon, on s'est dit, il faut bien avertir les autres femmes qu'il y a quelques-unes qui sont dans le hangar. Et on arrivait à sortir du camion parce qu'il y a seulement un type en uniforme d'or, et nous étions assez nombreux là-dedans, je sais pas, 20 à peu près. Et quelques-unes est allées au hangar en courant pour parler avec des femmes là-bas, et nous autres nous sommes mis par terre devant et derrière les autres camions, parce qu'ils allaient partir vite avec les autres femmes pour ne pas avoir une grande escalation de problèmes. Parce que nous sommes sortis, ils avaient voulu amener les autres femmes ailleurs. Alors nous sommes mis par terre.